France Culture.
Il est 18h sur France Culture, le journal de la rédaction. C'est avec vous Stanislas Vazak, bonsoir.
Bonsoir Astrid, bonsoir à tous. Nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. La mer constat du patron de l'ONU, Antonio Guterres, à Belém avant la conférence des Nations Unies sur le climat. Nous serons sur place dans un instant avec Véronique Roberotte. Israël bombarde le sud Liban un an après le cessez-le-feu. L'État hébreu veut empêcher le Hezbollah de se réarmer. Il appelle à l'évacuation de plusieurs villages libanais. Mediapart et Libération révèlent des images accablantes pour les gendarmes mobiles engagés contre les manifestants de Sainte-Soline en mars 2023. Le ministre de l'Intérieur ordonne une enquête administrative. Après ce journal, maire pourquoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire sur les enjeux des municipales. Aujourd'hui, le logement touristique ou social avec deux exemples en Bretagne, Saint-Malo et Guingamp. Le réchauffement climatique ne faiblit pas, alerte l'Organisation météorologique mondiale. Les 11 dernières années ont été les plus chaudes enregistrées en 176 ans d'observation. S'agissant de 2025, la température moyenne entre janvier et août a été supérieure de 1,42 degrés à la moyenne pré-industrielle. De nouveaux chiffres inquiétants dévoilés à Belém, la ville brésilienne qui accueille à partir de lundi la COP30. Avant cette conférence de l'ONU sur le climat, une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis aujourd'hui à Belém, où l'on retrouve Véronique Roberotte. Bonsoir.
La vérité crue, c'est que nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique.
Véronique Roberotte, oui. Est-ce que vous êtes avec nous ?
Absolument. Bonsoir.
Bonsoir Véronique. Alors, je disais que le patron de l'ONU, Antonio Guterres, est lui aussi à Belém pour constater l'échec de l'accord de Paris signé il y a tout juste 10 ans.
Absolument, passer le moment d'ouverture joyeux de ce sommet avec musique et danse, puis les prises de parole de scientifiques volontairement mises à l'honneur, leur mise en garde sur un réchauffement qui dérape. Le secrétaire général des Nations Unies a lui ciblé l'échec collectif des politiques dans la lutte contre le changement climatique. Antonio Guterres.
La vérité crue, c'est que nous avons échoué à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Il faut un changement de paradigme pour que ce dépassement soit temporaire et que l'on repasse vite sous ce seuil. Chaque fraction de degré est synonyme de famine, de déplacement et de perte, surtout pour ceux qui sont le moins responsables du réchauffement climatique. C'est un échec moral et une négligence aux conséquences fatales. Vos Excellences, les Nations Unies ne renonceront pas à l'objectif de contenir le réchauffement à 1,5 degré.
Manque de volonté politique, a aussi ajouté Antonio Guterres, quand l'accord de Paris, il y a 10 ans, avait incarné un élan à la réussite palpable, a tenu à rappeler le président de la COP21 à Paris, Laurent Fabius, présent ici à Belém.
Je suis venu à Belém avec un ami. C'est le marteau avec lequel j'ai scellé l'accord de Paris qui nous rassemble tous aujourd'hui. En 2015, au moment de l'accord de Paris, la tendance, celle de l'élévation des températures à la fin du siècle, était de 4 degrés ou plus. Et aujourd'hui, la tendance est au maximum de 2,8 degrés. On dira que c'est insuffisant, mais entre 4 degrés et 2,8 degrés, il y a des millions et des millions de vies sauvées.
Voilà, le président brésilien Lula a lui insisté sur son souhait de faire de cette COP30 une COP de l'action retrouvée malgré les égoïsmes nationaux. Le président Lula.
La mobilisation collective porte ses fruits. Or, le régime climatique n'est pas à l'abri de la logique du jeu à somme nulle qui prévaut dans l'ordre international. Dans un contexte d'insécurité et de méfiance mutuelle, les intérêts mesquins du moment l'emportent sur le bien commun à long terme. La COP 30 sera la COP de la vérité. C'est l'occasion de prendre au sérieux les mises en garde de la science. Le moment est venu de regarder la réalité en face et de décider si nous aurons ou non le courage et la détermination nécessaires pour la transformer.
Et le président Lula va défendre à Belém, ici aux portes de l'Amazonie, la création d'un nouveau fonds pour lutter contre la déforestation.
Véronique Robérotte, spécialiste environnement à la rédaction de France Culture, en direct de Belém avec Olivia Branger pour les moyens techniques. Emmanuel Macron doit lui aussi prendre la parole à Belém d'ici ce soir. Au Proche-Orient, un an après le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, l'État hébreu reprend ses frappes sur le sud du Liban. L'armée israélienne accuse la milice pro-iranienne de se réarmer et c'est pour empêcher ce réarmement qu'elle bombarde des cibles du Hezbollah. Nous sommes avec Michel Paul à Jérusalem, bonsoir.
Bonsoir Stan, bonsoir à tous.
Michel, Israël a appelé les habitants de 4 villages libanais à évacuer.
Oui, on peut parler ce soir d'une escalade sur ce front. Le cabinet de sécurité israélien doit se réunir pour décider des prochaines étapes au sud Liban et aussi du désarmement du Hezbollah. Et cela alors que l'armée israélienne a donc commencé à frapper ce qu'elle appelle des cibles militaires du Hezbollah. Cela a commencé par une attaque ciblée dans la ville de Tyr à l'aide d'un drone et ces frappes font suite à des ordres d'évacuation ciblant des bâtiments spécifiques et aussi des quartiers dans 4 localités sud-libanaises présentées comme étant utilisées par le Hezbollah. À ce stade, c'est la 5e vague de bombardements israéliens sur cette région depuis ce matin. Et de son côté, l'organisation chiite a revendiqué aujourd'hui son droit légitime à se défendre face aux agressions israéliennes, malgré le cessez-le-feu de novembre 2024, il y a donc tout juste un an, et a rejeté toute négociation politique. Le gouvernement israélien insiste, lui, sur la pleine application de ce cessez-le-feu et a déclaré qu'il ne permettrait pas au Hezbollah de se reconstruire.
Michel Paul en direct de Jérusalem. Quand le gouvernement français montre les muscles face à Chine, deux ministres, Amélie de Montchalin et Serge Papin, étaient à l'aéroport de Roissy ce matin pour superviser une opération de contrôle des colis de la plateforme chinoise. Tous les colis chinois ont été contrôlés et les douaniers ont découvert des produits non conformes ou illicites, affirme Amélie de Montchalin. Opération lancée au lendemain du lancement d'une procédure de suspension de la plateforme en France. Chine est mise en cause pour avoir commercialisé des poupées sexuelles et des armes de catégorie A. Le géant asiatique est aussi critiqué pour ses méthodes de production et les minorités opprimées par le régime communiste chinois se mobilisent sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'ouverture d'un magasin Chine au BHV à Paris. Nathanaël Charbonnier.
Le paradis du luxe qui ouvre la porte à l'une des marques les plus controversées au monde.
Les moyens sont modestes face à la caméra des jeunes filles tibétaines d'origine s'offusquent de l'arrivée de Chine à Paris dans les locaux du BHV. Et les militantes de s'en prendre notamment aux dégâts environnementaux liés à la fast fashion, la mode jetable prônée par Chine, mode qui pollue et ne respecte pas la planète. Mobilisation également des Ouïghours qui voient dans chaque vêtement vendu par l'enseigne le travail forcé en Chine de leur communauté et cela malgré l'assurance du groupe chinois de répondre aux normes européennes, accuse Dilnur Rehan, la présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe.
Chine est forcément impliquée dans le travail forcé des Ouïghours. Le génocide ouïghour, c'est quoi en fait? C'est un génocide de capitalisme qui se lie avec un État totalitaire qui soumet une population à leur service. Chine, ils peuvent mentir comme ils respirent. Ça, c'est leur nature. En tout cas, c'est une immense honte.
Non-respect de l'environnement, des droits de l'homme et critique du secteur du textile et des petits commerces qui estiment à 4,6 milliards le nombre de petits colis arrivant d'Asie et de Chine et échappant de cette manière à tout droit de douane.
Nathanaël Charbonnier de la rédaction internationale de Radio France a noté que le patron de Chine a envoyé aujourd'hui un courrier à Bercy où il s'engage à respecter toutes les lois françaises. Tendu, on les nique, il l'a shooté en pleine tête. Ce sont des gendarmes qui parlent dans ces vidéos révélées hier par Mediapart et Libération. Des gendarmes mobiles engagés avec leur LBD sur la manifestation interdite de Sainte-Soline contre les méga-bassines le 25 mars 2023. Les vidéos issues des caméras piétons des militaires sont accablantes. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ordonne l'ouverture d'une enquête administrative. Quant au porte-parole de la gendarmerie, le colonel Erwan Kouadi, il évoque des manquements à la déontologie. De leur côté, les 4 manifestants qui ont porté plainte il y a 2 ans réclament la poursuite des investigations, Anne Fauquemberg.
4 blessés côté manifestants avaient déposé plainte après la manifestation. Des personnes qui avaient été gravement atteintes par des projectiles à la mâchoire, à la tête, aux pieds ou encore à la gorge. Leur plainte avait déclenché une enquête préliminaire pour violence aggravée et non-assistance à personne en danger. Mais les conclusions de cette enquête confiée à l'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale, sont partiales et lacunaires selon les plaignants. Serge, aujourd'hui 35 ans, a été blessé à la tête par un tir tendu, un tir irrégulier dont font état les vidéos. S'en est suivi un mois de coma artificiel. Et selon sa mère, Françoise, les conclusions de l'enquête sont très floues sur la question de l'entrave au secours notamment, alors que son fils est resté pendant 1h20 dans un champ à Sainte-Soline dans l'attente des secours.
Ils répondent pas sur l'entrave à l'arrivée des secours, ils répondent sur le fait que les blessés graves n'ont pas eu de perte de chance puisqu'ils ont été soignés sur place de façon consciencieuse et irréprochable. Mais c'est pas du tout ça qui a été remis en question. Ce qui a été dénoncé et contesté, c'est l'interdiction qui a été faite aux ambulanciers d'accéder aux personnes blessées.
L'avocate des 4 blessés, Chloé Chalot, poursuit.
Ce dont j'ai eu l'impression quand j'ai pu consulter cette procédure, c'est que ces images elles révélaient beaucoup et qu'aucune conséquence n'était tirée de ces images. Qu'il y avait des PV d'exploitation qui étaient faits, mais qui étaient très partiels. Les exploitations n'ont pas du tout été faites de façon complète. Et surtout, les faits n'étaient pas qualifiés pénalement. Et il n'était pas envisagé de confronter les gendarmes à ces comportements.
Si des gendarmes ont été auditionnés, ils n'ont pas été confrontés aux images, ce que dénonce donc l'avocate. Chloé Chalot a écrit au parquet de Rennes afin de demander l'ouverture d'une information judiciaire et la saisie d'un juge d'instruction.
Explication signée Anne Fauquemberg. L'autorité de la concurrence inflige à Doctolib plus de 4,5 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante. La plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne est sanctionnée notamment pour avoir ajouté des clauses d'exclusivité dans ses contrats avec les médecins. L'autorité lui reproche aussi d'avoir racheté son principal concurrent dans le but de verrouiller le marché. Solène Lehen.
Être dominant sur un marché, ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, Doctolib l'était dès 2017 sur la prise de rendez-vous médicaux en ligne et dès 2019 sur les téléconsultations. Ce qui est interdit, c'est d'abuser de cette domination pour écraser, éliminer la concurrence. L'autorité de la concurrence estime que c'est le cas quand Doctolib a obligé jusqu'en 2023 les médecins qui s'engageaient avec la plateforme à signer une clause d'exclusivité. C'est illégal et les documents internes montrent que Doctolib le savait. Illégal aussi d'obliger un praticien qui veut seulement souscrire au service de téléconsultation à s'abonner aussi à la prise de rendez-vous. Doctolib va devoir modifier ses contrats. Enfin, l'entreprise est condamnée pour le rachat de son principal concurrent, Mon Docteur, il y a 7 ans. Fabienne Cyr Desgarnier, vice-présidente de l'autorité de la concurrence.
Cette acquisition a été considérée par nous comme une acquisition prédatrice. Doctolib s'est mise sur les rangs en se disant que c'était le meilleur moyen, comme elle le dit elle-même, de ne plus avoir aucun concurrent.
Résultat, Doctolib détient depuis plusieurs années plus de 90% des parts du marché de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Cette amende de 4 600 000 euros représente un peu plus d'1% de son chiffre d'affaires.
Et Doctolib annonce faire appel de cette amende infligée par l'autorité de la concurrence. C'est un rapport très sévère pour le Louvre, 3 semaines après le vol de bijoux dans la galerie d'Apollon. Selon la Cour des comptes, le musée parisien a, je cite, privilégié des opérations visibles et attractives au détriment de la sécurité. Et le vol des joyaux de la couronne le 19 octobre dernier est un signal d'alarme assourdissant, estime son président Pierre Moscovici. Emma Vogli-Maxi, bonsoir.
Bonsoir.
La Cour des comptes émet aussi des doutes sur le projet Renaissance du Louvre annoncé par Emmanuel Macron en janvier dernier. Un projet de rénovation qui prévoit notamment une nouvelle salle pour la Joconde et une deuxième ouverture pour le musée.
Le problème de ce projet, c'est qu'il coûte très cher et encore plus cher que ce qui était prévu au départ. À l'origine, il était estimé entre 700 et 800 millions d'euros. Sauf que selon le président de la Cour des comptes, il a été lancé trop vite sans qu'il n'y ait eu aucune enquête d'impact ou financière. Résultat, en 6 mois, le coût des travaux a été complètement revu à la hausse à 1,15 milliard d'euros. Alors comment le musée compte-t-il trouver une si grosse somme? Eh bien d'abord grâce aux recettes que lui rapportent les publicités qu'il affiche sur ses murs, ensuite grâce aux produits vendus avec la marque Louvre Abu Dhabi et enfin à l'aide du mécénat. Et sur ce troisième point, le Louvre est optimiste. Il espère récupérer 330 millions d'euros de dons venant de particuliers ou d'entreprises. La Cour des comptes, elle, n'y croit pas du tout. Elle estime que ce projet met en danger les finances du Louvre. L'argent devrait être utilisé pour résoudre les problèmes structurels du musée, comme par exemple la sécurité. Des critiques que la direction du Louvre n'a pas du tout appréciées. Pour elle, la Cour va trop loin. Elle aurait dû arrêter son étude en 2024 et ne pas prendre en compte les projets à venir. Elle considère, je cite, qu'un jugement n'est équilibré que si ce dernier se fonde sur le temps long.
Emma Vogli-Maxi, merci. Une météo agitée demain avec une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest sur la façade atlantique dès le matin. Un ciel pluvieux aussi sur le sud-est. En revanche, le soleil devrait s'imposer sur le nord-est demain matin. Il fera entre 2 et 12 degrés. L'après-midi, les températures iront de 7 à 20 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck.